Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Pour m'accompagner ce soir, Philippe Christel et Grégoire Gambier. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Patrick.
Bonsoir.
Nous n'aurons pas notre ami Pascal Essery, qui est en plein bouclage du prochain élément. Je crois que c'est ça. Enfin, c'est l'excuse qu'il m'a donnée. Nous parlerons ce soir avec Grégoire Gambier de l'événement de l'année. C'est le colloque de l'Iliade qui se passera samedi 9 avril. Mais dans notre première partie, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Yves Le Gallou. Je ne présente pas aux auditeurs de Radio Courtoisie. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir Patrick.
Jean-Yves Le Gallou qui vient de sortir un livre phare, un livre qui va devenir indispensable, Immigration, la catastrophe, que faire, aux éditions Via Romana. Alors, avant de rentrer dans le détail de votre livre, Jean-Yves, je me suis fait une réflexion en vous lisant. Vous avez été le monsieur immigration lors de votre passage au Front National. Et j'ai l'impression que l'on ne vous a pas remplacé au FN. Pire, on a le sentiment que ce n'est plus le sujet principal. Nous aurions pu attendre au FN, mais même ailleurs, avec une association mettant en place une étude politique, avec des universitaires, des politiques. On devrait avoir presque un rapport annuel sur le sujet, mais rien ou presque rien. Nous préférons mettre en avant la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro, la politique économique des gouvernements. Sur le plan intellectuel, avec Jean-Paul Gourevitch, j'ai l'impression que vous êtes bien seul, non ?
Bah, faut mieux être seul que mal accompagné. Non, mais enfin, plaisanterie mise à part, je pense qu'aujourd'hui, le sujet central pour la France et pour les pays européens, c'est la question de l'identité et la question de l'immigration. Alors, bon, je pense que le discours souverainiste ou le discours sur l'euro, tout ça n'est pas sans intérêt, bien sûr, mais ce n'est l'essentiel ni sur le plan historique, ni sur le plan électoral. Ce n'est pas l'essentiel sur le plan historique, parce que si on regarde l'année 2015, il y a quatre événements majeurs qui ont rythmé l'année. Il y a eu les assassinats de journalistes à Charlie Hebdo, c'est-à-dire le rétablissement de la peine de mort pour délit de blasphème, en tout cas pour délit de blasphème vis-à-vis de la religion musulmane. Il y a eu la déferlante migratoire qui a commencé en mai-juin à partir des côtes africaines et ensuite qui s'est poursuivie à partir des côtes turques. Il y a eu le Bataclan. C'est quand même le premier attentat suicide sur le sol européen et 130 morts dans une série d'attentats, c'est aussi une première sur le territoire français. Et il y a eu enfin, ça sort un petit peu de nos frontières, mais c'est tout à fait lié à cela, les agressions sexuelles de la part de migrants vis-à-vis de femmes allemandes lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Voilà quatre événements majeurs qui placent le problème de l'islam, le problème de l'immigration au cœur du sujet, à la fois pour la sécurité, mais aussi pour l'identité et la dignité des peuples européens. Ça, c'est sur le plan historique. Sur le plan électoral, c'est évidemment aussi ce qui est le moteur principal. Le Front National a gagné 3 points dans les sondages par rapport aux élections régionales dans la semaine qui a suivi le Bataclan, qui est évidemment un phénomène lié à l'islam, lié à l'islamisation, lié à l'immigration. Et en Allemagne, où les choses sont quand même particulièrement difficiles, parce que le régime y est peut-être plus totalitaire encore qu'en France, le parti Alliance pour l'Allemagne, AfD, qui végétait à 2-3% des voix quand il vendait à ses électeurs la sortie de l'euro ou la critique de l'Union européenne, est monté à 15%, 25% dans le Land de l'Est, à l'occasion de ces élections régionales, en changeant d'abord de dirigeant et prenant comme thématique principale, ce qui est quand même le problème principal aujourd'hui de l'Allemagne, la question de l'immigration. Donc je crois qu'il y a une convergence sur l'identité et l'immigration, une convergence à la fois du point de vue de l'importance historique du problème, et la politique c'est quand même de traiter les sujets les plus importants, et aussi du point de vue de l'intérêt électoral. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut.
Alors, on va rentrer dans le cœur de votre livre. Vous avez eu la bonne idée dans votre introduction de revenir sur la fameuse couverture du Figaro magazine avec cette Marianne voilée qui date de 1985. Alors, à l'époque, on avait parlé de fantasmes.
Oui, alors c'est assez amusant parce que en 85, il y a eu la couverture du Figaro Magazine avec l'étude qui allait avec, préfacée par Jean Raspail, mais avec des démographes, Boursier de Carbon, Gérard-François Dumont, derrière. Et puis, l'année d'après, il y a eu la commission Long, vice-président du Conseil d'État, avec des gens de l'Académie française, des gens des plus hautes instances intellectuelles et politiques. La commission Quilin, le Figaro Magazine et la commission Long ont traité un peu le même sujet. Le Figaro Magazine, la commission Long a été encensée. Elle a dit le problème de l'immigration va s'arrêter, ils vont s'intégrer et le flux d'immigration va cesser. Voilà les prévisions de la commission Long. Applaudissements général de toute la classe politique, de tous les médias et j'en passe. Et puis, le Figaro Magazine est arrivé un peu avant, mais peu importe, lui, il dit, voilà, serons-nous encore, Marianne sera-t-elle encore française dans 30 ans? Serons-nous encore français dans 30 ans? C'est la Marianne voilée. Et, alors on dit Marianne voilée, mais il n'y a pas de voile à l'époque en France.
Non,
pas de
c'est
voile.
Vrai en plus.
Le voile apparaît en 1989 avec l'affaire des collégiennes ou des lycéennes, je crois que c'est de Creil. Bon. La projection du Figaro Magazine dit en 2015, 35% des naissances en France ne seront pas européennes. Tollé, scandale, fantasme. Eh bien, sauf qu'en 2015, 35% des naissances en France ne sont pas d'origine européenne. On le sait grâce aux tests de dépistage à la drépanocytose. Alors là, par contre, le tollé. Monsieur Seguin, qui était à l'époque une des gloires du souverainisme, que certains continuent d'ailleurs de considérer comme une référence, a dit « Ah, dans le Figaro Magazine, je ne fais que les mots croisés ». Voilà, voilà, c'était la tonalité générale. Bon, les évêques, évidemment, avaient critiqué, enfin j'en passe, quoi, et pas seulement. Donc ceux qui avaient raison ont été diabolisés. Et ceux qui avaient tort ont été encensés. C'est une règle générale. C'est une règle générale. Moi, je dis aujourd'hui, si quelqu'un est diabolisé, il faut pas se poser d'abord la question qu'est-ce qu'il a dit de travers, qu'est-ce qu'il a fait de mal, qu'est-ce qu'il a dit de mal, mais au contraire, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il a dit de bien. Et je rappelle que le premier homme politique diabolisé en Europe, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, parce que la thèse officielle, c'est Jean-Marie Le Pen à cause de ses dérapages, gna gna gna. C'est pas exact. Le premier homme politique diabolisé en Europe, c'est Enoch Powell, issu de Cambridge, brillant helléniste, qui avait vocation à devenir premier ministre de Sa Majesté et qui a été flingué en plein vol, lui l'ancien aviateur de la RAF, parce qu'il avait dit que le problème de l'immigration allait changer la Grande-Bretagne. Il était bien placé pour le dire, puisqu'il était élu de la circonscription, d'une circonscription populaire de Birmingham. Et effectivement, aujourd'hui, dans cette circonscription populaire de Birmingham, il n'y a plus que des Pakistanais musulmans.
Alors, votre première partie, vous reprenez les différentes catastrophes de l'immigration, sécuritaire, l'emploi, le scolaire, sanitaire, logement. Depuis que vous étudiez le phénomène, lequel vous a le plus surpris quand vous avez écrit ce livre-là, hein, qui vous a le plus surpris sur son aggravation que vous n'aviez pas prévu? Il y a une question piège.
Je pense qu'il y a un phénomène qu'on sous-estime. Alors évidemment, c'est parasité par le fait que beaucoup de réformes ont été faites dans le mauvais sens. Mais ça a des conséquences catastrophiques, notamment dans le domaine scolaire. Pourquoi ? Alors, non, je pense que la crise de l'école, elle ne se résume pas à l'immigration, bien sûr. Elle est liée à un certain nombre de réformes pédagogiques aberrantes, la rupture de la chronologie en histoire, la méthode globale, enfin j'en passe. Bon, bien sûr, il y a tout ça. Mais s'ajoute à cela un phénomène absolument considérable, c'est que personne ne veut enseigner. Et je cite un rapport, tout ce qu'il y a de plus officiel, de l'éducation nationale, fait par 9 inspecteurs généraux de l'éducation nationale ou de l'administration de l'éducation nationale, qui disent, ils sont chargés d'étudier les problèmes de recrutement. Et alors ils disent, bah oui, il y a un problème de recrutement. Alors on trouve plus facilement des instituteurs, enfin des maîtres d'école, des, comment on appelle ça, des professeurs des écoles, des professeurs du secondaire, parce que ceux qui font les concours dans le secondaire ont peur d'être affectés dans l'académie de Créteil. L'Académie de Créteil. Bah oui, l'Académie de Créteil, c'est la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Et donc, comme personne ne veut être affecté dans l'Académie de Créteil, tout le monde renonce à être candidat. Et donc, on a là une pénurie de professeurs. On élimine un certain nombre de gens qui seraient motivés et compétents pour être professeurs, pour faire ce métier. Et donc, c'est un domaine où... La conséquence est particulièrement catastrophique. C'est particulièrement catastrophique aussi dans le domaine du logement, dans le domaine familial, parce que là aussi, ça biaise totalement le marché. Si vous voulez, il y a des endroits où vous traversez la rue, le mètre carré, il prend 30% en fonction de la carte scolaire. Simplement, ceux qui vont avoir des familles assez nombreuses, ben, ils vont avoir du mal à payer les 30% de plus. Donc, comme ils pourront pas payer les 30% de plus, eh ben, au lieu de faire deux enfants, ils en feront un, au lieu d'en faire trois, ils en feront deux, etc. Donc, il y a des conséquences dans absolument tous les domaines.
Oui, parce que vous pointez effectivement toute la liste de ces problèmes. Il y en a un qui est assez, qui m'a pas surpris, mais c'est vrai qu'on y pense pas souvent. C'est la catastrophe écologique. Vous pointez très justement le problème des transports. Comment l'immigration allonge nos temps de transport, oui. Parce qu'en fait, les gens vont vivre de plus en plus loin.
Ah oui, oui, les gens, les professions intermédiaires, les cadres moyens, les cadres supérieurs qui habitaient dans la petite couronne. Sont partis parce que la petite couronne a été progressivement colonisée par une immigration de plus en plus nombreuse vers la grande couronne. Et donc, ils prennent la voiture pour aller travailler. En plus,
ils souhaitent pas les
scolariser... ils prennent pas les transports, évidemment. D'abord, alors si vous voulez, c'est très simple. Si on avait voulu tirer les conséquences de l'importation... de populations nouvelles venues du tiers-monde en Île-de-France. Et les conséquences de leur implantation dans ce qu'on appelle la banlieue, c'est-à-dire la petite couronne, et donc le rejet de tous les autres travailleurs et de travailleurs en manière plus générale dans la grande couronne, il fallait faire 30 milliards d'investissements dans les transports. On les a pas fait, les 30 milliards d'investissements. On parle de les faire pendant 25 ans. Et donc, les transports se dégradent absolument constamment. Si vous ajoutez à ça que de temps en temps, il y a des bandes, alors on va rester dans le politiquement correct, allez, des bandes balkaniques qui font du ferraillage et qui piquent des aiguillages ou des
fils câbles électriques,
oui. Des câbles électriques, vous avez quelque chose qui se rajoute de temps en temps. Dans le nord de en Seine-Saint-Denis, parce que c'est toujours sur ces endroits-là qu'il y a les problèmes, donc vers la gare du Nord, il y a des gens qui occupent les voies parce qu'ils sont pas contents, et les gens qui occupent les voies au nord de la gare du Nord, c'est quand même généralement des gens issus de l'immigration, vous cumulez tous les problèmes. Donc y compris pour les transports. Mais alors quand vous dites ça, évidemment, on dit « bah non, c'est pas possible ». Bah oui, c'est pas possible, sauf que c'est la réalité. Voilà.
Alors, autre idée reçue, mais ça fait au moins 30 ans qu'on nous l'explique, les immigrés occupent les emplois dont ne veulent pas les Français. Et on recommence là depuis la période du chômage, vous avez, on nous dit, on n'arrive pas à trouver... Alors vous expliquez que c'est un phénomène qui existe, mais qui est limité à Paris.
Oui, parce que si vous voulez, on voit les mêmes emplois occupés par des Français dans la grande banlieue. Vous sortez de Paris en voiture. Vous faites, allez, une heure, et vous vous trouvez en vallée de Chevreuse ou forêt de Rambouillet ou forêt de Fontainebleau, des emplois, je pense dans la restauration par exemple, ou dans l'entretien des routes, qui sont dans Paris quasiment exclusivement occupés par des immigrés, sont occupés par des gens du coin. Tout simplement parce que à Paris, un Français ne peut pas vivre avec les salaires qui sont versés, qui sont pas adaptés au prix des transports, au prix de l'immobilier. Pas le prix des transports, il est faible, mais les temps de transport sont longs, et au prix de l'immobilier. De même, en province, vous trouvez des tas d'emplois qui sont occupés par des Français. Je veux dire, si on sort de nos frontières, on nous a expliqué, vous savez, là, avec la vague migratoire, notamment Madame Merkel et les dirigeants de l'Union européenne, on a besoin de main-d'œuvre. Moi, j'ai vu un reportage, tout à fait politiquement correct, dans une grande chaîne officielle de télévision, sur Molenbeek. On vous dit, mais 50% des jeunes de Molenbeek sont au chômage. Il y a pourtant des emplois. Molenbeek, c'est à côté de Bruxelles. Donc, il y a un problème.
Alors, autre sujet polémique, c'est l'idée du grand remplacement, thèse qui a été popularisée par l'écrivain Renaud Camus. Certains parlent effectivement d'un fantasme, mais même dans nos propres milieux, certains sont sceptiques. Et même vous, Jean-Yves, vous avouez dans l'entretien de la revue Élément que vous aviez eu des doutes sur certains statistiques publiées sur le site F de Souche de Pierre Sautarel.
Oui. Alors,
on a du mal, cette idée de grand remplacement.
J'ai découvert les tests sur la drépanocytose, donc qui est une maladie génétique qui concerne les populations issues d'Afrique, issues du Caraïbe, issues du Moyen-Orient, issues du Maghreb, issues d'Inde, pour faire simple. Bien. Et donc, j'ai découvert ces statistiques, effectivement, sur F de Souche. Et les chiffres m'ont paru extrêmement fort. À l'époque, il devait être autour de 28 ou 30% des naissances, ou 32% des naissances. Et donc, je n'en ai pas parlé. Et De Souche m'a appelé, m'a dit, mais pourquoi vous ne traitez pas ce sujet? C'est un sujet pour Polémia, etc. Ben, je lui ai dit, je ne le traite pas parce que je pense qu'il y a un biais statistique. Voilà, je pense qu'il y a un biais statistique et qu'on fait, en gros, du surdépistage. Bien. Et voilà. Et puis, j'ai un peu réfléchi, j'ai vu que les chiffres continuaient de croître. Et à ce moment-là, j'ai demandé à deux experts de Polémia d'essayer de se pencher sur la question. J'ai même consulté, figurez-vous, et ce n'est pas mon praticien habituel, j'ai même consulté des gynécologues pour leur demander, mais est-ce qu'on ne dépiste bien que les gens qui doivent être dépistés, est-ce qu'il n'y a pas de surdépistage? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de surdépistage, on ne peut jamais totalement
on est capable de dépenser de l'argent pour cacher la réalité.
Mais globalement, tous les éléments qui me sont remontés de cette vérification, de cette enquête, un peu de terrain en quelque sorte, c'est qu'effectivement, on ne dépistait que ceux qui devaient être dépistés au regard des critères retenus. Et indépendamment de cela, à supposer qu'il y ait un peu de surdépistage. Ça n'explique pas que le dépistage soit passé de 20% des nouveaux-nés en 2000 à 36% des nouveaux-nés l'année dernière. Et si on extrapole les courbes, à 50% des nouveaux-nés en 2025. Si on se contente d'extrapoler les courbes. Sachant que pour l'Île-de-France, c'est 66% des nouveau-nés qui sont dépistés pour la drépanocytose. Voilà. Ce qui veut dire que 66% des nouveau-nés ne sont pas d'origine européenne. Alors, quand on dit le grand remplacement, c'est un fantasme, eh bien, ce n'est pas sérieux. Il faut regarder les choses en face. Le grand remplacement, d'ailleurs, c'est pas seulement le grand remplacement démographique, c'est aussi le grand remplacement civilisationnel. Quand des commerces traditionnels sont remplacés par des boucheries halal, c'est du grand remplacement. Quand des femmes voilées occupent l'espace public à la place de femmes habillées à l'européenne, c'est du grand remplacement. Quand 50% des animaux abattus pour la consommation de viande sont abattus selon le mode halal, c'est du grand remplacement. Donc il y a un grand remplacement à la fois démographique et civilisationnel. C'est le grand mérite de Renaud Camus d'avoir pensé, d'avoir apporté le concept qui éclaire cela. Et ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Et les hommes ou les femmes politiques qui nient cette réalité, ne remplissent pas leur devoir d'État.
Alors, le phénomène est maintenant européen, parce que à une époque, on pouvait grosso modo dire qu'il touchait les deux grands pays qui étaient la France et l'Angleterre. Aujourd'hui, le phénomène est partout en Europe. On peut même s'apercevoir que certains petits pays du Nord pourraient presque disparaître. Je pense par exemple à la Norvège, en préparant l'émission, qui représente 5 millions d'habitants. L'immigration a doublé en moins de 10 ans et c'est maintenant 30% de la population d'Oslo. Vous expliquez que le phénomène va se poursuivre. La population africaine susceptible de migrer aura doublé en 2040. Ce qui veut dire qu'un pays de 5 millions d'habitants, ce qui est grosso modo la Bretagne, pourrait disparaître en moins de 20 ans. Sur le plan du remplacement.
Oui, s'ils ne réagissent pas à temps, c'est-à-dire maintenant. Et je pense que ce qui est nouveau quand même, c'est que la vague migratoire massive, telle qu'elle s'est produite de manière visible au cours de l'année 2015, amène un certain réveil des peuples européens. Une prise de conscience,
oui, parce que au-delà
de leurs différences, ils ont des choses en commun à défendre, qui sont tout simplement leur culture, leur civilisation, leurs origines. Moi, j'ai été très frappé de voir quand Pegida a proposé d'organiser une manifestation en Europe le 6 février. Alors, c'était pas une très bonne date pour les Français, mais ailleurs, ça a plutôt fonctionné. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que les Anglais de l'English Defence League y ont participé. Or, ce sont des Anglais souvent proches des groupes de supporters de foot, ce sont des British un peu tête dure, très qui ont un fort sentiment britannique. Eh bien, ils ont compris que leur problème, finalement, c'était le même que celui des Allemands, que celui des Français, que celui des Italiens, que celui des Espagnols. Et ça, je pense que c'est tout à fait important. De même, Viktor Orban ne défend pas seulement l'identité de la Hongrie, peuple, je dirais, par nature résistant, puisqu'ils ont résisté en 1848 à l'Empire Habsbourg, ils ont résisté ils ont résisté après 1919 au traité de Sèvres qui les maltraitait précisément, ils ont résisté en 1956 aux Soviétiques. Donc la Hongrie n'a pas seulement résisté en tant que Hongrie, Orban a parlé aussi pour l'ensemble des pays européens. Et de même, les pays du groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, sont conscients que le problème dépasse simplement le cadre national. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience européenne à l'occasion de... Et que la solution, paradoxalement, la solution, évidemment... Ce n'est pas l'Union européenne qui peut l'apporter, puisque l'Union européenne n'est jamais que le politiquement correct mondialiste porté au carré, mais que la solution est européenne, parce que tous les pays européens sont concernés.
Alors, au départ, vous revenez un peu sur l'origine de cette immigration. Au départ, c'est une volonté du grand patronat. Vous rappelez avec justesse que eux aussi ont lu Karl Marx. Le capitalisme a besoin d'une armée de réserve de travailleurs. C'est donc ça date d'il y a un moment.
Oui, je pense quand même que c'est pas uniquement le patronat que ça correspond. Ça correspond à un projet idéologique plus global, si vous voulez.
Oui, ils vont trouver un allié un allié idéologique formidable. C'est le droit de l'homisme. C'est l'une des plus belles inventions des pro-immigration. Là, on est dans la vraie idéologie.
Oui, absolument. De même que l'idéologie publicitaire est une idéologie de négation des identités et de métissage. D'ailleurs, c'est quand même assez extraordinaire. Je consacre un chapitre au monde publicitaire, au rôle de la publicité. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez que les principaux dirigeants de la publicité en France sont aussi des dirigeants d'associations antiracistes. Monsieur Unger, qui est... Le patron du plus grand réseau d'affichage, je crois, en Europe et au monde, à savoir les gares, les métros, etc., est en même temps responsable de la communication de la LICRA. Voilà. Je pourrais citer d'autres exemples du même tonneau. l'interconnexion, si je puis dire, là on est dans les transports, vous allez me dire, l'interconnexion entre le monde de la publicité les lobbies, ou pour, comme on est à Radio Courtoisie, on va dire les groupes de pression dits antiracistes, est quand même assez fabuleux, quoi. Et ça, c'est quand même, c'est indépendamment du calcul de Monsieur Gattaz ou de son prédécesseur, Madame Parisot, je crois que ça, c'est des phénomènes qui sont très importants.
Oui, parce que
avec
ça...
le fait que dans le monde de la publicité, c'est assez extraordinaire. Vous voyez beaucoup de couples mixtes dans le monde de la publicité, mais le couple mixte est toujours sur le même modèle. La femme blanche, généralement blonde d'ailleurs, mais blanche en tout cas, et l'homme noir ou coloré, dans 90% des cas. Donc il y a quand même un message subliminal qui est envoyé, qui est aussi un message de grand remplacement. Et ça, c'est tout à fait sciemment. Et qu'on vienne pas me dire que c'est ce qui permet de vendre davantage de peau de bébé ou de robes ou de chaussures ou que sais-je encore.
Ça touche, ça, c'est un phénomène qu'on voit.
Donc ça, c'est un élément qui est traité dans parmi les causes. Voilà,
on voit ça arriver.
C'est les causes idéologiques qu'on parle.
Dans les années 80, oui. Ça se propage dans les médias. Alors effectivement, la publicité, mais le cinéma, la musique populaire. Éric Zemmour avait bien analysé la fameuse chanson de Pierre Perret, Lily, cette jeune femme noire venant de Somalie. Travailler à Paris, vider les poubelles et qui un jour a découvert Angela Davis. Alors c'est assez marrant parce que je suis revenu sur cette chanson. Cette chanson, elle est surréaliste parce qu'elle date de 77 et à l'époque j'ai pas souvenir qu'il y a une immigration féminine de Somalie qui arrive pour devenir éboueur. C'est-à-dire qu'on est prêt à dire n'importe quoi, mais le but là, c'est de culpabiliser le peuple français.
Ouais. Le problème central, c'est la culpabilisation du peuple français et du peuple européen. On le voit d'ailleurs de manière emblématique avec l'Allemagne, puisque l'Allemagne est le cœur de la culpabilisation, et comme par hasard, c'est le pays dont les dirigeants estiment qu'il faut ouvrir le plus les frontières.
On voit une différence du problème des Allemands de l'Est ou de l'Allemagne de l'Ouest.
Oui,
on voit
alors,
qu'il y en a un qui a presque été plus...
Voilà, alors là, on voit que le communisme, finalement, a eu un rôle de glaciation, un rôle protecteur, finalement, des identités. Voilà. Pendant que le capitalisme américain, anglo-saxon, a été très efficace dans la dislocation des peuples. Mais l'Allemagne, c'est le cœur de la culpabilisation. Bon, le problème, c'est qu'en 1945, l'Allemagne a été culpabilisée et que cette culpabilisation s'est étendue à tous les autres. C'est quand même assez extraordinaire, y compris ceux qui avaient résisté ou ont été réputés avoir résisté, y compris aux neutres, tout le monde est culpabilisé. Il y a un moment où il va falloir arrêter avec tout ça. Et qu'il faut en revenir, et il faut remplacer la repentance par la fierté. Le jour où on aura fait ça, on aura déjà réglé beaucoup de nos problèmes. La solution de nos problèmes, c'est une solution idéologique, c'est pas une solution technique.
Oui. À partir des années 80, même si il y a eu toute cette propagande, arrive quand même le phénomène du Front National. Alors forcément, les choses deviennent plus compliquées pour les gouvernements. Vous dites la solution, elle est aussi simple, c'est qu'à l'époque on truque les chiffres simplement sur l'immigration.
Alors on a toujours truqué les chiffres de différentes manières. Et alors moi je le dis d'ailleurs, je ne sais pas si c'est dans la préface ou à un autre endroit du livre. Mais au fond, moi, je fais 40 ans pratiquement que je traite le problème de l'immigration. J'ai souvent été qualifié d'alarmiste, d'extrémiste, enfin tout ça, quoi, forcément. Or, en fait, si j'ai un reproche à me faire a posteriori, c'est plutôt d'avoir sous-estimé la réalité. Voilà. Et je dois dire, là encore, quand j'ai parlé avec Gourevitch de mon livre et que je lui ai dit le titre, il a frémi. Et immigration, la catastrophe, et il m'a dit avec un point d'interrogation. Je lui ai dit non, sans point d'interrogation, parce qu'à mon avis, il n'y a pas de point d'interrogation. Et que mettre un point d'interrogation, c'était être en deçà de la réalité. Voilà, et au fond, dire aux gens que la question pouvait se poser. Non, la question ne se pose pas.
Il y a aussi l'arme suprême, c'est la justice. Vous parlez-vous d'un coup d'état des juges à ce niveau-là ?
Oui, alors ça, si vous voulez, il faut savoir que les lois sur l'immigration, depuis 40 ans, ne sont absolument pas faites par les députés ou les ministres. Ou plus exactement, quand un député ou un ministre veut faire une loi, on vient lui dire, attention, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme ne tolérera pas cela. Donc vous ne pouvez pas faire cela. Et donc, au final, on a eu des dizaines de lois, toutes plus vides les unes que les autres, parce que ce qui fait la loi, c'est l'interprétation politiquement correcte par les juges de textes généraux. Je donne un exemple qui remonte à la fin des années 70, au début des années 80, sur le regroupement familial. Il y a une convention internationale des droits de l'enfant que la France a ratifiée et qui dit que l'enfant a droit à vivre avec sa famille. Bon. Et donc, la jurisprudence du Conseil d'État, je crois que c'est la Régisti, hein, des arrêts Gisti, car il y en a beaucoup, groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, a dit on ne peut pas séparer l'enfant de la famille et donc on regroupe tout le monde en France. Ce que le texte de la Convention internationale des droits de l'enfant ne dit absolument pas, puisque le regroupement peut se faire dans un pays ou dans l'autre. Voilà. Voilà, typiquement, une décision de jurisprudence. Et ça, c'est très important, c'est une des premières. Vous savez que Chirac et Giscard, en 1976, ont permis le regroupement familial, mais ce qu'on sait moins, c'est que Raymond Barre, Premier ministre, et Bonnet, ministre de l'Intérieur, ont voulu le restreindre. Et ils en ont été empêchés par le Conseil d'État. Voilà. Alors je me pique un petit... Donc, si vous voulez, toutes les lois, toute la jurisprudence, tous les textes sur l'immigration en France, ils sont faits par le Conseil d'État, que personne n'a jamais élu. Et d'ailleurs, je les taquine un petit peu, puisque je donne leurs adresses, enfin, juste les villes, je suis pas...
Oui, oui.
Je ne vais pas jusqu'à donner le numéro de téléphone et l'étage du bâtiment. Mais ils habitent tous, c'est curieux, ils ont pris des positions, globalement, hein, bien sûr, ils sont pas tous... Ils ont pris tous des positions fabuleusement pro-immigrés, mais alors... Voilà, sur 200, j'en ai trouvé un qui était en Seine-Saint-Denis, hein, ou deux peut-être, et au Rincy encore, le Neuilly de la Seine-Saint-Denis, tout est relatif. Donc ils y sont pour les immigrés, mais chez les autres. Bah, c'est classique.
Oui, pour certains, la machine républicaine est en panne, c'est l'intégration, l'assimilation n'existe plus. Vous êtes plutôt sceptique avec cette thèse? Sur l'assimilation et l'intégration?
Non, l'assimilation...
À chaque fois, on nous donne l'exemple des Italiens et des Polonais. Non,
ça n'a rien à voir. Mais là je discutais. Je vais avoir une discussion avec Sapir, qui me cite effectivement l'exemple de son père d'origine russe, etc. Bah oui, mais sauf que le problème n'est plus le même. Non, je crois franchement que l'assimilation, c'est possible pour un petit nombre d'individus issus d'aires culturelles proches. Bon. Ça a honnêtement assez bien fonctionné avec les Italiens, les Polonais, les Espagnols, qui n'étaient pas trop nombreux et qui venaient d'aires culturelles proches. À partir du moment où vous avez des masses immenses, constamment alimentées, qui viennent d'aires civilisationnelles très éloignées, comme le monde musulman ou comme le monde africain, ça ne marche pas. Sauf pour de très rares individualités. Moi, je pense tout à fait qu'il peut y avoir de quelques individualités issues du monde arabo-musulman, voire du monde africain, qui peuvent s'assimiler, bien sûr. Des petites individualités. Absolument pas des masses entières. D'ailleurs, on le voit très bien. Depuis 40 ans, ce qu'on voit se produire en France, c'est pas un phénomène d'assimilation, c'est un phénomène de désassimilation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants sont moins intégrés que les parents et les petits-enfants moins intégrés que les grands-parents. Donc le phénomène est tout à fait... Alors on peut dire l'assimilation, les valeurs de la République, tout ça ne correspond plus à la réalité. Bon, ça peut être du langage politique correct, c'est confortable, si vous dites ça, personne ne va vous critiquer, mais ça correspond plus du tout à la réalité, quoi.
Oui, surtout que j'avais lu sur les Italiens qui étaient venus en France que 70% des Italiens qui sont venus travailler sont repartis au bout de 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui se sont assimilés, c'est les 30% qui sont restés. Hein, donc les chiffres sont souvent biaisés. Vous citez aussi les mauvaises bonnes idées, c'est l'aide au retour et le co-développement. Ça, vous y croyez pas non plus?
Non. Non, si vous voulez, dans le livre, j'essaye de chasser un certain nombre d'illusions. Parce que, si vous voulez, quand on traite de l'immigration, les gens ont toujours peur de passer pour des méchants. Si vous dites la réalité, on va dire il est méchant. Alors, pour pas passer pour des méchants, on essaye de trouver un peu de pommade sympathique. Alors, on dit, bon, on va les aider à se développer, ou on va les aider à repartir, ou alors on va trouver des techniques nouvelles, enfin, tout ça ne règle aucun problème. Le développement, d'ailleurs, c'est extrêmement ambigu. Parce que, si vous voulez, quelle est la conséquence que ce qu'on appelle le développement en Afrique, en gros, c'est le développement de la partie liée à l'économie mondialisée. Donc, qui concerne d'abord un petit nombre de gens, au départ, et qui amène, qui aspire un certain nombre de personnes, des petites villes et des campagnes vers les villes du tiers-monde, d'où ensuite ils vont partir vers les villes d'Europe. Donc je ne crois pas que ce soit vraiment la bonne solution. En tout cas, le développement de l'Afrique, on ne peut pas dire que l'Afrique, ça marche, quoi. Voilà.
Certains parlent d'un retour, pareil, d'une souveraineté républicaine. Vous dites que le mot république, on l'a un peu remplacé par le mot nation et identité.
Bah, je crois que le mot république, c'est un mot valise, c'est devenu un mot. Au départ, la res publica, c'est très bien, c'est le bien commun, c'est très bien la république, le res publica, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un mot valise pour définir le politiquement correct. Vous êtes républicain, monsieur Cazeneuve, quand il reçoit et serre la pogne de 12 clandestins, il est républicain, paraît-il. Alors qu'il viole la loi, lorsqu'il fait un selfie là, je crois que c'est hier ou avant-hier, il fait un selfie avec les gens de l'Union des organisations islamiques de France, qui ont quand même pour objectif d'appliquer la charia. Il prétend défendre les valeurs de la République. Enfin, c'est se moquer du monde.
Alors la chose qui effectivement on en parlait tout à l'heure qui n'avait pas été prévue par les adeptes de l'immigration, c'est la guerre de masse suite aux révolutions arabes, puis les conséquences sur l'Europe. Alors là on se retrouve exactement avec le scénario de Zora Spike. Enfin, moi j'ai une tendance à croire, les gens ont toujours l'impression que c'est un livre sur l'arrivée des immigrés, c'est pas son livre, c'est sur le comportement de nos élites face au drame.
Ce qui est le plus terrible dans le livre de Raspail, c'est la fin. C'est la fin. Quand l'armée de l'air française bombarde les derniers îlots de résistance. Voilà. C'est ça qui est le plus terrible. Je pense d'ailleurs que les militaires et les gendarmes devraient relire régulièrement le camp des saints pour s'interroger sur ce qu'on leur fait faire.
Ils devraient surtout cacher la couverture, parce que je pense que pour l'avancement, c'est pas forcément le meilleur livre à lire. À la fin de votre livre, vous donnez bien sûr des pistes et le début de solutions. Alors, elles sont loin d'une solution totalitaire ou violente. Elles étaient déjà dans certains programmes politiques comme le Front National, mais aussi, vous le rappelez, dans un parti comme le RPR. Ce que vous donnez aujourd'hui, c'est ce que le RPR proposait.
Oui, alors oui.
À relire,
oui,
j'ai retrouvé.
Oui,
c'est
oui. Ah bah le RPR des années 90, c'était beaucoup plus dur que le Front National des années 2015. Oui, mais à mon avis, le problème, il n'est pas technique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le contexte idéologique, constitutionnel et juridique actuel, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ce qu'a fait Guéant, ministre de l'Intérieur de Sarkozy, en 2010-2012. Bon. Guéant, il a essayé de faire un certain nombre de choses. En gros, il rentrait 200 000 immigrés régulièrement. Guéant est arrivé, il en est rentré 190 000 ou 185 000. Et dans le contexte actuel, si on ne change pas les règles du jeu, si on ne change pas les paradigmes, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Changer les paradigmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre au cœur du projet politique, non pas la défense des individus, des droits des individus venant d'ailleurs, ce qui est le cas actuellement avec l'idéologie des droits de l'homme, mais la défense, le droit du peuple à défendre son identité. Voilà. Si on procède à ces changements-là, avec les conséquences que cela peut avoir sur le, dans l'ordre juridique, notamment la dénonciation d'un certain nombre de conventions internationales, ou le rétablissement du primat du droit national sur l'interprétation politiquement correcte de ces conventions, on ne fait rien. Et objectivement, moi je dis Guéant, il a fait ce qu'il pouvait dans le contexte juridique, idéologique actuel. Et on ne peut faire véritablement quelque chose qu'à condition de remettre au centre des préoccupations le droit des, du peuple, le droit des peuples européens et le droit du peuple français à défendre son identité et à cesser de se voir obligé d'accueillir des gens du monde entier.
Mais est-ce que, le, par exemple, l'exemple hongrois ou polonais nous démontre pas un peu le contraire ? Ils restent dans les institutions européennes, mais ils décident par eux-mêmes de leur politique.
Ils ont repris leur souveraineté, oui.
Et ils restent en Europe ?
Oui, enfin, ils restent en Europe. Le problème, vous avez vu qu'en Pologne, il y a un grand débat autour, précisément, du Conseil constitutionnel, de ce qui est l'équivalent du Conseil constitutionnel polonais. Les vrais, de même que le grand débat en Pologne aussi, c'est autour du rétablissement du pluralisme des médias. De même, en Hongrie, la question, c'est une question constitutionnelle. On a reproché à Orban de changer la constitution. On lui reproche de rétablir le pluralisme dans les médias. Car c'est ça le problème. Il faut rétablir la souveraineté face à la dictature politiquement correcte des juges, et il faut rétablir le pluralisme dans les médias. Parce que si les médias, vous savez, il suffit de voir l'AFP. Aujourd'hui, 70 à 80% de ce qu'on appelle les migrants, c'est-à-dire des clandestins, ce sont des hommes, et des hommes jeunes, entre 20 et 35 ans. Bon. Mais, sur les photos de l'AFP sur le sujet, ce sont à 90% des femmes, des enfants ou des hommes âgés. Donc il y a un biais total de la représentation, parce qu'on fait larmoyer. Et il est évident que tant qu'on ne rétablira pas un minimum de pluralisme et tout simplement de vérité dans les médias, ce sera très difficile d'agir. Donc si vous le voyez, c'est pas des changements, on va changer l'alinéa B2 de l'article 13 de la loi sur l'entrée des immigrés en France. C'est un changement profond.
Un changement profond.
Et radical.
Qui pourrait se faire au sein de l'Europe ?
Je pense qu'il ne se fera pas au sein de l'Europe. Je pense qu'il se fera par un jeu de dominos, par un certain nombre d'États européens qui changeront les règles du jeu.
On verra ce que l'Angleterre...
C'est un jeu de dominos.
L'Angleterre décide, mais enfin, elle a été capable quand même, pour une fois, de dire à l'Europe, voilà, si vous voulez qu'on reste...
Oui, mais enfin, c'est du théâtre.
C'est du théâtre,
c'est
enfin...
C'est du théâtre. C'est du théâtre.
Et enfin, en l'espèce, ceux qui ont mis l'Europe devant ses propres contradictions, c'est davantage les gouvernements de Hongrie, de Slovénie à fermer leurs frontières, puis les Autrichiens, que les Anglais dans cette affaire de Brexit.
Le paradoxe d'ailleurs, c'est qu'on a reproché, c'est quand même hallucinant, on a reproché à Orban ou aux Slovènes d'appliquer Schengen. À savoir d'avoir contrôle à l'extérieur de l'Union européenne. Quand on dit il faut supprimer Schengen, on va régler tous les problèmes, c'est pas vrai du tout.
Il aurait fallu l'appliquer.
Il faut savoir quand même qu'on a promis à la Turquie 3 milliards plus 3 milliards, c'est-à-dire c'est 6 sûr. Milliards pour aider à contrôler les frontières de l'Europe, alors que le budget de Frontex, c'est 80 millions d'euros, et que le budget de Frontex a été diminué en 2012 et 2013. Donc on voit quand même à quel point on marche sur la tête.
Alors, moi j'ai juste un bémol, mais ça c'est moi, vous savez, j'en ai...
Ah bah quand même, heureusement.
Sur 500 pages,
Heureusement.
Mais je pense que là-dessus vous allez avoir Grégoire et Philippe à votre secousse. Moi c'est le mot remigration. Je trouve que le mot est fort, mais que la définition est faible. Il y a eu dans notre histoire moderne, enfin, d'après ce que j'ai souvenir, deux remigrations qui ont été fortes. C'est l'Algérie avec le départ des pieds noirs. Et aujourd'hui, une autre remigration qu'on voit, c'est l'Afrique du Sud, où on voit progressivement la population blanche partir vers l'Australie, l'Amérique, la Nouvelle-Zélande. Dans les deux cas, personne n'a jamais parlé de remigration. J'ai l'impression que c'est un phénomène qui existe, mais qu'on n'a pas besoin du mot. Est-ce que le mot n'est pas contre-productif ? On n'a pas une façon de se faire peur à soi-même ?
Bah, je crois que le mot, il y a une autre manière de voir les choses. À partir du moment où l'assimilation ne fonctionnera pas, il y a deux solutions. La communautarisation, qui est déjà en cours d'ailleurs de la part des autres, et non pas des nôtres, ce qui est un problème. La communautarisation qui risque quand même de déboucher sur des conflits. C'est une forme de libanisation. L'autre option, c'est la remigration. Alors, dans la remigration, on peut avoir une vision complète du sujet. Mais on peut aussi avoir une vision progressive. Si vous allez dans un pub irlandais et que vous prenez une très grande chope de bière, vous allez vous dire, ça va être très dur de la vider. Mais enfin, vous pouvez toujours commencer par la vider un peu, puis un peu plus, puis un peu plus. Ben, la remigration, c'est la même chose. Le premier acte de la remigration, c'est de ne plus accepter d'entrées nouvelles. Et à partir de là, il y a quand même des départs spontanés. Donc, le simple fait de ne plus accepter d'entrées nouvelles, c'est déjà le début de la remigration. Vous avez aussi, ensuite, un certain nombre, quand même plusieurs millions, plus de 3 millions d'étrangers qui ont un permis de séjour qui n'est pas éternel. Et donc, on peut là aussi arrêter de le redonner. Les clandestins, on n'est pas obligé de faire jouer les CRS à la Marelle avec les clandestins à Calais. Voilà.
Oui, Grégoire Gambier.
Tout à fait. Non, mais pour le coup, j'approuve totalement Jean-Yves Le Gallou et quelques autres.
Je savais que vous alliez.
Mais oui, Renaud Camus, Julien Rochdy, etc. Parce que quelqu'un
soit là.
Laurent Ozon, bien sûr.
Renaud Camus, c'est surtout le grand remplacement.
Oui, tout à fait. Hein, oui, mais il accepte quand même, parce que pour une raison très simple, qui est pas que technique, même si Jean-Yves Le Gallou vient d'évoquer des possibilités tout à fait faisables pour faire cesser l'invasion migratoire de façon progressive et juridiquement solide et fondée, c'est surtout, en gros, ne pas désespérer Billancourt. Parce que si il n'y a pas la perspective, même infime, de redevenir maître chez nous, simplement, à quoi ça sert de faire de la politique ou même de diffuser des idées et de vouloir convaincre et défendre notre peuple? Parce que ça veut dire simplement, s'il n'y a pas de remigration, il y a submersion. Et c'est là que je suis moins d'accord avec Jean-Yves Le Gallou, parce que vous venez de dire qu'il y avait deux solutions, la communautarisation, la libanisation, ou la remigration. Malheureusement, il y en a une troisième.
C'est la submersion.
C'est la submersion, c'est totale. Parce que même la libanisation, souvenez-vous, s'il y a eu...
La libanisation, c'est aussi un peu la submersion.
Oui, mais il y a eu résistance. Enfin, les Maronites ont pris les armes, justement, pour défendre leur identité, puis leur pouvoir sur l'État libanais, qui était la garantie de leur sécurité en tant que minorité. Mais il y a eu cette réaction, donc armée. Objectivement, dans les circonstances présentes, il y a peu de risques qu'il y ait, que le peuple français, les autochtones, tout à coup redécouvrent leur fusil de chasse au fond des greniers.
Il faut dire que le peuple autochtone est victime de la répression de l'appareil d'État.
Oui.
Bon, il y a une scène qui est quand même extraordinaire à Calais. À Calais, c'est très simple. Quand il s'agit d'arrêter des sous-officiers, des généraux ou des militants identitaires, les gendarmes et les CRS ont l'équipement le plus complet, le casque, c'est les Robocop, là. Quand les clandestins attaquent un ferry, les CRS se retirent, pas ces messieurs. Alors, ils sont submergés par le nombre, et surtout, c'est là qu'on voit les ordres qui ont été donnés. Faut bien appeler les choses, les collabos de la préfecture, et sans doute au-delà d'eux, puisque le casque il est attaché à la ceinture, c'est-à-dire que dans un cas on n'est pas en tenue de maintien de l'ordre et dans l'autre on est en tenue de rétablissement de l'ordre. Ça c'est des choix quand même politiques de l'appareil d'État. C'est comme dans le camp des Saints, quand l'armée de l'air bombarde le dernier îlot de résistance.
Philippe Ressel sur la... Non ?
Non, alors vous faites une partie du livre sur l'esprit de résistance. Alors où sont les résistants aujourd'hui, en France ? Où est-ce que vous les imaginez ? Où sont les résistants ? Alors il y a les résistants historiques, hein. Et vous qui êtes bon observateur, que voyez-vous de nouveau ? Tel Seran, que voyez-vous venir dans l'esprit de résistance ?
Bien, je pense qu'il y a eu un certain nombre de manifestations qui sont petites, qui sont symboliques, qui sont à des degrés de, d'engagement à la fois faibles et forts. Faibles parce que ce sont des manifestations tout à fait pacifiques et fort comme engagement parce que le niveau de répression est extrêmement extrêmement fort. Et donc effectivement, je vois des résistances dans certains îlots locaux. Je pense qu'il y a des résistances en Corse par exemple, qu'il y a quelques résistances en Bretagne. C'est pas un hasard, c'est des régions un peu plus enracinées que les autres ou un peu moins déracinées que les autres. Qu'il y a aussi quand même des petits mouvements de résistance à Calais, que les identitaires font un certain nombre de choses bien. Il y a aussi, ben oui, il y a aussi peut-être parfois des supporters de foot qui se mobilisent, et c'est très bien, et je trouve scandaleux qu'on les qualifie de crétins. Voilà, il y a des résistants. Le problème, c'est que les résistants, il y a eu une manifestation à Bruxelles, il y a des éléments de résistance. Le problème des résistants, c'est que généralement, ceux qui devraient les soutenir leur tirent dans le dos. Ce qui est pas, ce qui est à la fois une, je pense, une faute politique et quand même d'une inélégance rare pour ne pas dire davantage.
Voilà, ben je pense que, mon cher Jean-Yves, on a fait le tour. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie le titre de votre livre, Immigration, la catastrophe. Que faire, point d'interrogation, mais c'est le que faire où il y a le point d'interrogation, aux éditions Via Romana. C'est 500 pages où il y a tout. Voilà, si vous aviez des doutes, là je crois que Jean-Yves a fait le tour de la question. Et allez-y.
Oui, peut-être Jean-Yves. Alors une précision, on peut le trouver en librairie. Il est déjà en réimpression, m'a indiqué mon éditeur avant que je vienne. On peut le trouver et l'acheter sur Internet, sur le site Polémia, ou même sur Amazon, où il fait partie des meilleures ventes pour les essais. Et je le dédicacerai samedi prochain de 15h à 18h à la librairie Notre-Dame de France, rue Galande. Je le dédicacerai aussi le 9 avril lors du colloque de l'Iliade.
Oui, ça on va en parler. Je signale aux auditeurs que vous avez enregistré au Libre Journal des débats de Charles de Meyer un entretien croisé avec Jacques Sapir sur le thème identité ou souveraineté qui sera diffusé le 13 avril à 21h30. Le débat s'est bien passé avec Jacques Sapir.
Alors écoutez, le débat a été très bien arbitré par Charles de Meyer. Le débat a été très courtois. Mais il a fait apparaître, je crois, un certain nombre de divergences tout à fait importantes. Mais c'est l'importance du débat. Personnellement, je crois que la souveraineté sans l'identité, c'est une cruche vide.
Voilà, nous allons passer faire une légère pause musicale et nous passerons dans notre deuxième partie pour parler du colloque de l'Iliade. Deuxième partie de notre émission de la vieille Europe. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie avec Jean-Yves Le Gallou, Grégoire Gambier et Philippe Christel. Nous allons aborder le colloque de l'Iliade du 9 avril, mais avant, j'aimerais qu'on rende un hommage à l'écrivain essayiste Jean Mabir pour les 10 ans de sa disparition, exactement aujourd'hui, le 29 mars. Alors, il nous faudrait bien sûr une émission entière pour parler de son héritage, qu'il faudra qu'on prépare un de ces jours et dans les prochains mois, mais peut-être un mot de chacun sur cette immense œuvre d'écrivain. Que laissera-t-il dans notre mémoire collective ? Jean-Yves Le Gallou, vous avez bien connu Jean Mabir.
Oui, bien sûr. Pour moi, c'est un éveilleur de peuple. Et il a fait de beaux livres sur les éveilleurs de peuple au 19e siècle et au 20e siècle. Le dernier, je crois que c'est son dernier livre, ou l'un de ses derniers livres, était consacré aux héros... des Pâques irlandaises de 1916, le poète Patrick Pearse. Voilà, c'est une des choses que je retiens tout particulièrement dans l'héritage de Jean Mabir.
Philippe.
Ou peut-être d'abord indiquer que les bouquins de Mabir et leur diffusion nous permettent de mesurer le chemin parcouru par le terrorisme judiciaire, puisque je me rappelle que quand j'avais une quinzaine d'années, j'achetais ces gros bouquins édités chez Fayard au supermarché Carrefour, qui était non loin de mon domicile, et ce qui laisse quand même mesurer une partie du chemin effectivement qui a été parcouru. Alors, pour ne pas paraphraser ce qu'a dit Jean-Yves Le Gallou, peut-être effectivement, et ce sera une Madeleine de Proust, revenir sur cette période où effectivement à un âge relativement jeune, j'ai découvert toute une littérature militaire ou de troupes d'élite qui permettait d'éveiller un regard différent de l'histoire et un certain esthétisme permettant de faire souffler un vent de liberté sur des périodes qui étaient forcément diabolisées. Et donc il y avait aussi là, de la part de Mabir, un coup de génie d'arriver à mettre en évidence des sujets en les faisant échapper à la gangue politique qui les environnait.
Grégoire Gambier.
Oui, je vais paraphraser mes deux prédécesseurs. Hein. Tout à fait d'accord avec Philippe Christel sur les écrits, et notamment les écrits de guerre, puisque dans un style quand même très direct, accessible, vivant pour des adolescents en particulier, il a quand même fait redécouvrir les axes et les vertus d'un héroïsme européen, pardon. Et donc ça, évidemment, ça restera. Mais au-delà de l'écrivain, enfin. J'ai l'impression qu'il y avait trois fonctions, Jean Mabir, l'écrivain, donc, que l'on vient d'évoquer, mais aussi le lecteur. Et je pense à sa collection des
que lire,
qui est une bibliothèque idéale, absolument irremplaçable. Et aussi comme animateur, parce que c'était vraiment un animateur, un militant, et notamment avec la création des hautes écoles populaires et tout ce qu'il a essayé de faire jusqu'au bout pour transmettre le flambeau de la résistance européenne. Donc c'est bien que nous puissions évoquer sa mémoire ce soir ensemble, juste avant d'évoquer le colloque de l'Iliade, puisque tout ceci évidemment fait sens et dans une certaine continuité.
Voilà, pour ma part, moi je citerai un livre qui est peu connu, c'est L'écrivain, la politique et l'espérance, car je pense que Jean Mabir était un grand politique sur le plan idéologique, et ses idées sont souvent mal connues, on connaît ses grandes fresques historiques, et je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'il y aura d'autres occasions. Voilà, nous saluons sa famille et ses amis, car Jean Mabir restera un grand parmi les grands.
Oui, Jean-Yves Le Gallou. Oui, par rapport à ce que vous dites sur l'écrivain, la politique et l'espérance, je crois que c'est un livre qui est un peu dans le même esprit de celui de Dominique Vénère sur le cœur rebelle.
Oui, exactement.
C'est deux livres assez comparables qui évoquent aussi en partie les mêmes événements, et c'est effectivement des très beaux livres.
Face à l'assaut migratoire, le réveil de la conscience européenne, c'est le titre du colloque de l'Iliade, le 9 avril prochain, Grégoire Gambier. C'est un peu la suite du livre de Jean-Yves Le Gallou. L'actualité nous presse pour un réveil au-delà des frontières françaises. Il y a urgence, Grégoire ?
Oui, nous sommes totalement dans le dans la continuité du propos précédent. Enfin, ça ne vous ça n'étonnera pas les auditeurs de Radio Courtoisie, parce que vous m'avez pas demandé mon avis sur l'ouvrage de Jean-Yves Le Gallou.
Ah bah vous pouvez le faire. Attendez.
Donc je vais le faire. Je vais en profiter maintenant. Donc effectivement, au-delà du contenu, hein, puisque on sait que Jean-Yves Le Gallou est un spécialiste des questions migratoires depuis. Allez, on peut.
Depuis un siècle,
une poignée de décennies. Donc c'est un outil de travail absolument irremplaçable et incontestable de par le sérieux des chiffres et des analyses rassemblées, mais aussi il est important parce que c'est l'analyse qui compte. Et moi, ce que j'ai retenu de cet ouvrage épais, dense et donc une fois de plus très riche en informations, c'est que mais Jean-Yves Le Gallou le disait tout à l'heure, le nœud gordien, c'est de rompre avec l'effondrement moral, enfin ce qui permet l'immigration massive et l'invasion, donc en tout cas l'assaut migratoire en Europe, c'est l'effondrement moral des Européens, c'est leur culpabilisation, c'est le fait qu'ils refusent d'être et de se reconnaître comme étant une civilisation spécifique et riche, ou en tout cas en vaut quelques autres. Donc de facto, l'objet du colloque en effet de Liliane que l'on va évoquer, c'est bien d'essayer de trouver les voies, les leviers, de définir ensemble sur une journée quelles sont les principales voies pour redonner fierté et confiance en l'avenir, même si pour le coup c'est très difficile, aux Européens en Europe.
Oui, parce que on parlait tout à l'heure du phénomène, le fameux drame du jour de l'an en Allemagne, qui a été un peu le déclencheur de cette défaite électorale. Mais enfin, quand on annonce, il y a eu quand même une défaite, Philippe Christel, de la part d'Angela Merkel.
Oui, oui.
On a l'impression quand même que ce réveil il se fait timidement, parce que quand Angela Merkel leur annonce qu'ils vont recevoir 1 million de personnes, 1 million d'émigrés, il faut attendre ce jour de l'an pour qu'il y ait un petit réveil. Comment vous allez pouvoir expliquer à tous nos amis européens que le réveil, il va falloir qu'il se fasse plus rapidement, Grégoire Gambier?
Bon, en faisant preuve de pédagogie, hein, exceptionnellement cette année, compte tenu du sujet et évidemment de l'urgence qu'il y a à le traiter, le colloque se tiendra sur l'ensemble de la journée, donc de 10h à 18h30, avec une matinée qui sera consacrée à l'analyse des faits, parce que bon, on a tous une partie de la réalité ou de la connaissance de ce qui se passe en tête, ou une bonne connaissance, mais c'est pas mal quand même. Enfin, il nous a paru essentiel, en tout cas, de quand même poser les termes du sujet, de le problématiser et donc de l'étudier tel qu'il est, notamment avec Bernard Lugan, François Bousquet, la matinée donc sera consacrée à l'analyse. Et elle se terminera d'ailleurs avec une évocation de l'œuvre du Camp des Saints de Jean Raspail par Christopher Gérard, en présence de Jean Raspail.
Oui, alors ça, vous avez fait comment pour faire venir Jean Raspail? Parce que Jean Raspail avait dit qu'il ne voulait plus parler de son livre, il était fatigué par ses polémiques stériles. Comment vous l'avez convaincu de venir reparler de... Le problème de Jean Raspail, c'est que c'est presque, pour beaucoup d'auditeurs même, c'est l'auteur d'un livre, alors qu'il a fait de magnifiques livres, et on ne retient que ça. Vous avez fait comment pour le convaincre de venir parler à Christopher Gérard?
Ouais, là pour le coup, enfin je mets de côté la solidarité patagone éventuelle de certains membres de l'Institut Iliade, mais je pense que Jean Raspail, c'est pas moi qui ai établi le contact, hein, peut-être que on pourra compléter ensuite, mais moi je me suis pas posé la question. Vous avez une question un peu tordue.
Oui, parce que en fin d'émission comme ça, voilà.
Non, et puis tout à l'heure vous demandiez s'il y avait urgence. S'il y avait urgence à faire ce type de colloque, à l'évidence, le fait que Jean Raspail sorte de sa hutte pour participer au colloque démontre qu'il y a bien urgence. Question suivante.
Voilà, vous avez, il a une réponse extraordinaire. Merci Philippe pour votre réponse. Alors, dans la matinée, effectivement, vous allez, on a Philippe Conrad, Bernard Lugan, j'ai vu François Bousquet, et dans l'après-midi, vous allez voir les leviers nécessaires pour le réveil de cette conscience. Ça, c'est peut-être la partie la plus difficile, parce que le constat.
Oui, oui, encore que le constat, il faut quand même le poser convenablement. Enfin, il faut faire un bon diagnostic si on veut espérer trouver des solutions. Donc le diagnostic, il faut quand même le poser et faire l'effort de le poser. Alors, c'est pas aussi binaire que problème le matin et solution l'après-midi. Mais l'après-midi sera effectivement davantage tourné sur, comme je disais tout à l'heure, les leviers qui pourrait permettre le réveil ou l'éveil de la conscience des Européens. Il y a quand même beaucoup de choses à aborder, hein. On parlait de l'effondrement moral tout à l'heure qui permettait l'immigration de masse en Europe. Ben, le fait est qu'il faut répondre au risque de, enfin en tout cas à cette tendance, cette pulsion mortifère voire nihiliste, en retrouvant donc au cœur de notre civilisation, dans la richesse de notre culture, les raisons de croire que l'on peut, enfin que voilà, notre civilisation mérite d'être défendue. Voilà, c'est retrouver l'être des nations et des communautés populaires contre un capitalisme, en tout cas un libéralisme qui a déraciné ces peuples et ces cultures. C'est avec Renaud Camus donc la fierté, on en parlait tout à l'heure, contre la repentance. Et là, c'est vraiment
c'est l'idée clé. Hein, quand
c'est
même.
Le cœur nucléaire presque un peu de la fin de la solution, de la possibilité en tout cas de renouer avec notre destin. Jean-François Gaultier aussi, qui avait fait une remarquable intervention l'année dernière, et qui est d'ailleurs une des plus visionnées sur YouTube depuis cette date, qui nous parlera de la pérennité de l'âme européenne, parce que là aussi, je pense que c'est important, ce n'est pas uniquement le sursaut de fierté contre la repentance, c'est surtout renouer le fil de notre identité profonde et qui est plurimillénaire, et c'est en renouant avec ces sources premières de notre identité que nous pouvons aussi retrouver une certaine force et une capacité à affronter des défis, et personne se cachera que les défis qui nous attendent seront de toute façon difficiles. Alors il y a aussi la conclusion par Jean-Yves Le Gallou, donc qui est ici présent, donc pour la préférence de civilisation. On en a parlé tout à l'heure, hein, sur son ouvrage. Donc là, on est vraiment dans l'offensive, les 4-5 points clés qu'il faut traiter si l'on veut vraiment que la situation change. Il y aura aussi une table ronde. Parce que généralement on aime bien aussi faire apparaître des militants ou des personnes engagées dans la cité, plus jeunes, moins connues que les têtes d'affiche, et donc nous aurons une table ronde avec Charlotte Dornelas, donc bien connue des auditeurs de Radio Courtoisie, donc au titre de Boulevard Voltaire, mais aussi de SOS Chrétien d'Orient, qui a une petite actualité ce week-end sur les réseaux sociaux. Nous aurons aussi Jean-David Catin pour les identitaires, Yann Valéry pour Brésinfo, donc la réinformation de terrain. On parlait de la Bretagne qui, comme la Corse, peut être un des territoires, une des régions où reste encore vivante une forme d'identité, donc vivante, donc agissante. Élise Blaise pour TV Liberté, évidemment. Aude Soro et Olivier Bonnet, qui l'un et l'autre, eux, représentent des associations de promotion des traditions et de l'art européen, avec des sites internet, mais aussi des animations, et la volonté, dans un cercle soit familial, soit à l'échelle d'un village, de faire se réapproprier concrètement, soit les familles, soit les communautés villageoises, les vieilles traditions européennes.
Justement, Jean-Yves, sur cette nouvelle génération et ces jeunes qui vont parler de leur expérience, il y a une chose qui m'a surpris, c'est que contrairement peut-être aux années 80-90 chez les jeunes militants, ces gens-là viennent parler à visage découvert, sous leur nom. On a l'impression qu'il y a une prise de conscience chez certains militants qui est peut-être moins folklorique, je veux pas les aînés dire qu'ils faisaient du folklore, mais qui est une prise de conscience plus importante chez les jeunes qui a 20 ou 30 ans, où il y avait quand même une sorte de folklore militant. Hein, j'ai l'impression que la chose est plus grave aujourd'hui.
Ah, je crois qu'il y a une génération, moi ce que j'appelle la génération 2013, qui s'est levée avec... l'affaire de la manif pour tous, contre la loi Taubira, contre la négation finalement des règles de vie traditionnelles. Bon, il y a une génération qui s'est levée à cette occasion et qui se mobilise aussi sur les questions identitaires. Là, il y a véritablement un changement très important, oui.
Philippe Christel.
Oui, je crois que le sujet sur lequel il faut probablement insister concernant ce colloque, parce que ma foi, des colloques de résistance face à l'immigration et pour l'identité, je pense que depuis 15 ans, on a eu un certain nombre. Là, je crois qu'on est sur absolument tout autre chose. D'abord, je pense que ce qu'il faut dire, et Grégoire Gambier a peut-être été trop modeste dans son évocation, mais c'est que la raison numéro un pour laquelle il faut venir à ce colloque, c'est qu'on a une concentration de signatures et de figures au mètre carré qui est impressionnante. On a parlé de Raspail, on a parlé de Camus, on a parlé de Jean-Yves Le Gallou ici présent. Vous avez aussi une bonne partie de l'équipe qui anime la nouvelle revue d'histoire, Bernard Lugan, Philippe Conrad, Jean-François Gauthier, les gens qui sont également à Éléments. Donc il y a autour de la table, il y a quand même une forte concentration de matière grise, de courage et de préscience, et c'est la première raison. La deuxième raison, et je crois qu'on est passé un peu vite là-dessus, parce que on a, quand on suit depuis effectivement 15 ans le combat politique sur ces questions d'immigration, on a souvent en tête cette notion de préférence nationale, Et là, aujourd'hui, le sujet n'est plus que la préférence nationale, le sujet, Jean-Yves Le Gallou l'a dit, c'est la préférence de civilisation. Cette préférence de civilisation, on voit bien qu'elle englobe et elle dépasse cette logique de préférence nationale. Et il me semble que le colloque de l'Iliade est bien l'occasion d'incarner, comme le dit son titre, le réveil de la conscience européenne et de donner un certain nombre de pistes pour pouvoir incarner, traduire, comprendre, exposer, rayonner autour de cette nécessité d'une préférence de civilisation. L'enjeu du colloque, c'est également de donner la parole à ce qui se passe ailleurs en Europe, et je crois savoir qu'il y aura un certain nombre de surprises qui vont sur ce thème-là attendre les auditeurs du colloque, mais il y aura effectivement un certain nombre d'évocations de ce qui se passe en Allemagne, de ce qui se passe en Italie, en Hongrie, en Pologne, en Espagne. Et donc, j'ai envie de m'adresser aux auditeurs pour qu'ils prennent bien conscience qu'on a là, effectivement, dans la lignée de ce qu'a voulu faire Dominique Wenner, un point de départ, une réveil de cette conscience européenne qui va servir la préférence de civilisation qui remplace... Notre grand remplacement remplace ou plutôt sublime la notion de préférence nationale. On a vu d'ailleurs que le travail de l'Institut Iliade est plutôt un grand succès, puisque quand on voit que la fameuse vidéo « Ni Bruxelles, ni Lampedusa, être européen » a dépassé les 2 millions de vues sur YouTube pour sa seule version française, je ne parle pas des versions dans d'autres langues européennes. Et donc il y a là
2 300 000
comptage d'huissier, maître Folas, huissier de justice. Et donc, il y a là, premièrement, quelque chose qui est dynamique, quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est en succès, quelque chose qui est européen, et quelque chose qui sert l'urgence de ce combat de civilisation. Et donc, voilà toutes les raisons pour lesquelles il faut rapidement s'inscrire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour participer à ce colloque qui aura lieu donc samedi 9 avril, à partir de 10h, à la Maison de la Chimie, donc dans le 7e arrondissement de Paris. Donc c'est un événement parisien, certes, mais il y aura déjà beaucoup de nos gens, nos amis de province qui feront le voyage, parce que ça vaut vraiment le coup.
Jean-Yves Le Gallou, sur le titre de votre intervention pour la préférence de civilisation. Ça aussi, civilisation, c'est un mot qui est devenu presque un gros mot aujourd'hui. On ne veut plus en parler de la civilisation, et alors je ne parle pas de la civilisation européenne. C'est encore pire.
Ben c'est pourtant ce que notre bien le plus précieux. C'est notre héritage le plus précieux, c'est notre bien le plus précieux, et nous devons le défendre et lui accorder la priorité, la préférence.
Voilà, l'Institut Iliade, c'est aussi de la formation, Grégoire Gambier. La dernière fois qu'on s'était vu, vous en étiez à votre première formation de jeunes. Ça en est où? Ça avance? Il y a maintenant, il doit avoir plusieurs, comment promotion. On appelle ça, promotion.
Oh bah, il y a trois promotions, parce qu'on en ouvre que deux par an, ce qui est déjà beaucoup, hein, début d'année civile, début d'année universitaire pour 20 auditeurs. Donc trier sur le volet que l'on cherche parmi les, enfin, que l'on sélectionne plus, en tout cas qu'on peut chercher aussi en fonction dans des la mouvance très large des gens qui justement se préoccupent de la survie et du réveil de la culture européenne au sens large. Donc il n'y a pas que des militants politiques, il y a des militants associatifs, des gens qui animent des blogs, des revues, voilà, des artistes même qui s'expriment de cette façon. Donc trois promotions en effet aujourd'hui. Donc nous sommes en phase de recrutement de la quatrième qui donc débutera ses travaux après l'été. Donc voilà, les trois premières promotions, Dominique Vénère, Don Juan d'Autriche et Patrick Pierce sont actives. Et la première, donc la promotion Dominique Vénère, va finir, clôturer son cycle de formation là à l'été, avec la remise par chacun des auditeurs de son travail personnel, puisque parallèlement aux cours, aux interventions, aux ateliers qui sont proposés donc en fin de semaine sur Paris, chaque auditeur s'engage à un travail personnel pour dans le domaine d'expression qui est le sien, hein, qui peut être artistique, qui peut être un ouvrage, un article, de l'animation, une campagne sur internet. Il y a plein de choses à faire pour accélérer le réveil européen. Les gens, chaque auditeur donc s'engage sur un projet qu'il mène à bien et qui sert collectivement donc ce réveil européen. On n'a pas dit.
Mais on a encore le temps. Hein, vous avez plein de choses.
Oui, on a parlé de Charlotte Dornelas. Et donc je voulais en profiter pour saluer le magazine France qui est sorti dans le magazine numérique. Il vous aura pas échappé que l'invité de ce premier numéro était Marion Maréchal-Le Pen et qui indique dans cet entretien qui est assez long, qui indique notamment que elle, sa façon dont elle conçoit son combat politique, alors on est dans le champ politique, hein, c'est que l'urgence de réarmer, je la cite, hein, psychologiquement le peuple français. Il faut rappeler d'où nous venons, ce que nous avons à défendre et pourquoi nous devons le défendre. J'ai envie d'extrapoler cette très tonique prise de position politique de façon plus large, à la fois métapolitique et européenne, et non pas simplement française. Je pense que ce que nous avons à faire, ce que propose l'Institut Iliade à travers ses actions, hein, de formation, de communication, son colloque annuel, c'est bien de réarmer psychologiquement les peuples européens, pour leur rappeler d'où ils viennent, ce qu'ils ont à défendre et pourquoi ils doivent le défendre.
Oui, il y a des auditeurs qui me demandent si, au moment du colloque, justement, ces fameuses formations, est-ce qu'on va pouvoir se renseigner? Est-ce qu'il y aura quelqu'un, un stand, pour savoir? Parce que c'est un peu mystérieux, comment on fait pour s'inscrire?
C'est pas mystérieux, puisque de toute façon, c'est même sur le site internet de l'Institut Iliade, hein, institut-iliade.com, il y a une page formation qui décrit le projet pédagogique, et avec un lien pour pouvoir envoyer un message et demander un dossier pour s'inscrire ou poser d'autres questions. Mais vous faites bien de parler des stands. Il y aura bien évidemment un stand institutionnel de l'Iliade à son colloque annuel, c'est bien loin, donc avec aussi une partie spécifiquement dédiée à la formation, donc qui sera tenue par les présidents des trois promotions que j'ai citées tout à l'heure et certains auditeurs qui tourneront en cours de journée pour assurer cette animation. Mais nous ne serons pas seuls. Cette année aussi, la particularité par rapport à l'année dernière, c'est que nous avons multiplié l'espace pour les exposants. Et donc il y aura des dizaines de stands. Il y aura la revue Élément, bien sûr, la nouvelle revue d'histoire, enfin des livres arbitres, etc. Donc beaucoup de revues, une grande librairie, des librairies aussi uniquement de livres d'occasion, des artistes. des artisans, voilà, une buvette.
Parce que
mais oui, ça avait manqué l'année dernière, donc comme il y a
c'était organisé autour des stands, une sorte de bar clandestin où les bouteilles passaient. Donc
Là, ce sera plus encadré,
plus officiel.
Voilà, la bière sera fraîche avec un peu de chance. donc beaucoup de gens et beaucoup d'exposants pour montrer aussi le pluralisme et la polyphonie de ce que représente le mouvement de résistance européenne.
Philippe, un mot. Alors, il faut à tout prix s'inscrire.
Il vaut mieux s'inscrire. Voilà,
parce que l'année dernière, vous avez dépassé des chiffres.
Nous étions à pratiquement 854 entrées payantes, donc avec toute l'organisation, etc. Nous étions
quasiment 854. Hein, donc il devait bien être 853. Hein.
Non, nous étions 854 entrées payantes.
Parce que vous aviez pas payé votre entrée.
Oui, je pense les exposants, vous savez comment c'est. Donc quasiment 1000, et c'était la capacité d'aller. Ça reste la capacité d'accueil de la maison de la chimie. Donc effectivement,
Il n'y aura pas d'estrapontin ou une nouvelle salle.
Parce que l'étage était déjà ouvert. Plein. On était au maximum de la capacité d'accueil de la maison de la chimie, qui est autour de 900. Donc c'est un conseil que l'on peut donner aux auditeurs plutôt de s'inscrire, parce qu'en s'inscrivant, ils auront le billet électronique, donc ils sont sûrs de pouvoir rentrer.
Il suffit qu'ils aillent sur le site.
Sur le site internet de l'Institut Iliad, c'est en une du site jusqu'à la manifestation, bien sûr. Donc les auditeurs de Radio Courtoisie qui surfent de façon très habile n'auront aucune difficulté à cliquer sur l'image qui représente l'affiche du colloque et à donc tomber sur la page où on peut acheter et imprimer son billet pour entrer.
J'arrive à un dernier mot sur le colloque. Bon, ça va être un succès comme d'habitude, mais il faut peut-être que donner à tout le monde l'envie de venir. Alors peut-être un dernier mot, pourquoi il faut aller au colloque de l'Iliade cette année?
Parce qu'il y a urgence à réveiller la conscience européenne et que ça passe aussi d'abord par la diffusion d'un certain nombre d'idées, d'un certain nombre d'images. D'idées, d'images qui ensuite amènent les hommes et les femmes à agir. Donc nous sommes en amont de la résistance européenne.
Voilà, écoutez, j'espère que tout le monde viendra. Et aux jeunes, c'est pas une journée forcément ennuyeuse, même si vous pouvez être militant le reste de la semaine et venir prendre une journée pour aller écouter ces grands aînés, car que ça soit Bernard Lugan, Philippe Conrad ou Jean-Yves Le Gallou, ce sont des gens qui ont apporté avec. Oui, Jean-Yves, vous vouliez rajouter?
Oui, par rapport aux jeunes, c'est la formation, se former. Le colloque, c'est un instrument de formation. Comme les sessions de formation sont des instruments de formation, la formation, c'est essentiel. Parce que quelqu'un qui est formé, quand il est jeune militant, il est formé pour la vie. Et il continuera à combattre toute sa vie. Celui qui n'est pas formé, il va papillonner, il va disparaître. Et donc la formation, c'est essentiel. Et il faut faire l'effort, effectivement. Il y aura peut-être des conférences un petit peu difficiles. Bah oui, il faut faire quand même un minimum d'effort aussi, oui.
Grégoire Gambier.
Oui, sachant qu'un colloque, là, surtout sur toute la journée, c'est une manifestation aussi. Enfin, on a pensé ce colloque comme évidemment un instrument de communication, donc de formation, mais aussi de rassemblement et d'échange entre les gens qui viendront, d'où l'espace des stands, d'où les pauses qui sont prévues, les séances de dédicaces qui permettent aussi de rencontrer directement les intervenants, parce que c'est très important au-delà du message. Intellectuel ou effectivement de plus artistique comme l'évoquait Jean-Yves Le Gallou tout à l'heure, parce que ce sont des représentations qu'il faut aussi faire passer pour réveiller les peuples européens. C'est aussi recréer du lien, de la solidarité et de la connivence entre les personnes qui se reconnaissent face à l'urgence du danger et dans la volonté de ne pas subir.
Voilà, très bien. Ben, je crois qu'on a tout dit. Et comme il me reste quelques minutes, on fait de l'autopromo pour le magazine Élément qui vient de sortir ce mois de mars avec un dossier sur l'origine de l'homme, le mythe du berceau unique, mais aussi toute une série d'articles sur les migrants, l'angélisme à l'épreuve du réel. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on dise le mot migrant, mais je pense qu'on peut faire une différence entre ce qui s'est passé cette année sur le plan de l'immigration et ce qui s'est passé sur les 30 ans sur le plan économique. Et donc vous avez un entretien extraordinaire avec Jean-Yves Le Gallou, mais aussi avec des intellectuels allemands sur le sujet, car il y a aussi un réveil de l'Allemagne là-dessus, et je pense que c'est important. Il y a un grand entretien avec Jacques Julliard, qui, je pense, est en train de passer du côté obscur, parce que quand Jacques Julliard vous annonce la gauche a tout misé sur les immigrés, donc dont elle a décidé de faire un prolétariat de rechange, et quand Monsieur Jacques Julliard dit dans le succès de Marion Maréchal Le Pen par rapport à sa tante, je vois l'idée que les bonnes mœurs, comme on disait autrefois, ont repris de l'importance dans les préférences politiques populaires. Michéa parlait de décence ordinaire, donc passer du nouvel obs à Marion Maréchal Le Pen, je dis bravo Monsieur Jacques Julliard. Voilà, autrement je pense qu'on a fait le tour. Donc je rappelle le livre que l'on trouvera au colloque, et je suis sûr que si Jean-Yves Le Gallou, qui sera beaucoup pris, mais il y aura une séance de dédicace jour-là. Immigration, la catastrophe, que faire? C'est aux éditions Via Romana de Jean-Yves Le Gallou. C'est un pavé de 500 pages, mais c'est un pavé précieux. Et qu'on se retrouve, bien sûr, aussi au colloque de l'Iliade. Voilà, bonne soirée à tous et restez sur Radio Courtoisie.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death.
Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
From nothing, you know what I say?
Oh,
cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there.
Always look on the bright
money on shit, they'll never make their money back. Oh.